Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Nous allons parler de l'utilisation de l'eau de forage, quels sont les avantages et les dangers. On en parle dans quelques instants avec professeur Asser Ndovou, il est expert en droit de l'eau. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur Jody Kachama.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien Okapi Service. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'extension de la ville de Kinshasa. Comment bien s'y prendre? Eh bien, vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Vous savez, le président de la République a annoncé dernièrement un projet d'extension de la ville de Kinshasa, appelé Kitoko. Voilà, des questions et préoccupations par rapport à cela. Appelez déjà pour participer au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Alain Goy est à la mise en onde. Tati Mapoukou réalise cette émission, coordonnée par Marcel Ngombo. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de l'utilisation des lots des forages. Quels sont les avantages et quels peuvent être les dangers éventuels? Vous savez, l'accès à l'eau potable demeure un problème crucial en République démocratique du Congo. Pour s'approvisionner, bon nombre de ménages font recours à l'eau du fleuve, l'eau des sources, aux eaux des pluies, des bornes fontaines et autres. À Kinshasa, par exemple, la pénurie d'eau devient de plus en plus très très aiguë. Alors, de nombreuses familles aménagent des forages d'eau dans les parcelles pour recueillir les eaux souterraines à la suite de la pénurie d'eau de la régie des eaux. Alors, l'utilisation de l'eau des forages permet de satisfaire un besoin vital, certes, cependant, il peut présenter aussi certains dangers, d'après les experts. Alors, pour en savoir plus, nous avons en ligne le professeur Asser Ndovou, expert en droit de l'eau. Professeur Asser Ndovou, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama.
Bien. Alors, nous savons que les difficultés d'eau sont énormes dans notre pays. Les gens n'ont pas toujours l'accès facile à l'eau potable. On a vu à Kinshasa, par exemple, de plus en plus, les gens recourent au forage dans des parcelles, dans la périphérie de la ville. Il y a des forages qui sont aménagés. Alors, dites-nous, professeur, quels sont les avantages de recourir aux eaux de forage?
Merci beaucoup. Je voudrais plutôt saluer déjà votre initiative en disant que le recours à l'eau de forage, c'est effectivement dans l'esprit de la loi actuelle, la loi de 2015 relative à l'eau, qui reconnaît désormais aux particuliers, donc aux personnes physiques ou morales, la possibilité de produire et de distribuer de l'eau. Et donc, ceci fait que là où l'État intervenait seul, les particuliers peuvent désormais intervenir et même arriver à des coins où il n'y avait pas encore distribution de l'eau. Et donc, il y a beaucoup plus d'avantages à faire intégrer, à faire participer les particuliers à cette initiative de distribution de l'eau. Mais la question qu'il faut se poser, c'est celle relative à la qualité de cette eau qui est distribuée. Est-ce que l'eau distribuée est de bonne qualité? Et là, justement, la loi a pris des garde-fous en créant des obligations. D'abord, des obligations à charge du distributeur de l'eau. Lorsque vous allez à l'article 59 de la loi relative à l'eau, il apparaît très clairement que lorsqu'on s'attelle à la mission de la production de l'eau, de la distribution et même du transport, il faudra veiller à ce que les normes de potabilité soient respectées. Et donc les personnes physiques, les propriétaires de forages doivent veiller à cette qualité d'eau. Mais du côté de l'État, justement, il y a des organes qui sont chargés de veiller, de contrôler. Et pour que le contrôle s'efface, et donc les particuliers qui se lancent dans ce secteur ne peuvent pas s'improviser. Ils doivent entrer en contact avec les autorités compétentes, en l'espèce les services publics de l'eau étant de la compétence de la province et des entités territoriales décentralisées. Eh bien, ces autorités doivent mettre en place des mécanismes, donc des contrats qu'ils doivent signer avec ces opérateurs chargés de distribution de l'eau. Et c'est dans ces contrats que les modalités, les obligations devront être définies pour que les particuliers respectent la qualité de l'eau. En même temps, ces autorités sont chargées de veiller sur la qualité de l'eau à travers des contrôles qu'ils doivent faire régulièrement auprès de ces opérateurs pour voir est-ce qu'ils respectent ou pas les normes de qualité dans la distribution de l'eau. Et ceci, c'est pour éviter que, au lieu que ça soit l'eau potable qui contribue au bien-être, mais finalement, ça va être de l'eau polluée qui risque d'aggraver la situation des maladies hydriques comme nous connaissons. Donc, s'il y a des avantages, disais-je, en fait que l'intervention des particuliers contribue à étendre les ressorts de la distribution d'eau, ben, il faudra qu'on soit prudent pour que les règles de jeu soient respectées, que l'autorité veille à ce que la qualité de l'eau soit surveillée de temps en temps, comme le veut la loi. Voilà, de manière résumée, oui, ce que je peux dire au sujet justement de forage et de la distribution d'eau par les particuliers.
Alors, professeur, ceux qui font les forages chez eux, c'est pour les besoins, leurs propres besoins en eau ou c'est pour la distribution?
Bon, mais vous avez parlé plutôt de ceux qui font les forages pour les besoins de distribution. Parce que là, il faut veiller. Lorsque on fait les forages pour son besoin personnel, il y a moins de contraintes que lorsque on les fait pour la distribution. Parce que quand on est dans le cas du service public de l'eau, et donc on voit plutôt la production, les transports et la distribution. Mais lorsque c'est pour soi-même, évidemment, c'est vrai qu'il faut veiller sur la qualité, mais ce n'est pas très contraignant comme si on distribuait cette eau-là.
Voilà. Et quelles sont les étapes à suivre pour réaliser un forage manuel d'eau?
Les étapes à suivre, il faut nécessairement, évidemment, on est encore en chantier. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les organes chargés de la mise en œuvre, justement, des contrats, des conventions d'eau, sont encore en chantier. Donc, il faudra, évidemment, dans certaines provinces, il y a déjà les bureaux d'eau qui sont installés, mais pas encore opérationnels. Dans d'autres, c'est encore un vide. C'est à travers, justement, l'autorité qu'il faut mettre sur pied les cahiers des charges, les obligations, ainsi que toute la procédure requise qui permet à quelqu'un de produire de l'eau. Je ne suis pas encore tombé sur un cahier de charges bien défini qui trace clairement les étapes qu'un opérateur doit produire et doit suivre pour la production de l'eau. C'est comme ça que la sensibilisation est faite au niveau des autorités provinciales et locales pour qu'ils rendent opérationnel d'abord la régie des distributions, la régie chargée de veiller sur la qualité de l'eau au niveau de la province et les bureaux d'eau au niveau des entités territoriales décentralisées qui devront mettre sur pied ces cahiers de charges qui définissent clairement les mécanismes et la procédure à suivre lorsque on veut distribuer ou on veut produire de l'eau pour tel ou tel usage.
Bien, on va accueillir un auditeur, Jean-Pierre Passois, depuis Mykolaïv, au Kassaï Central. Des questions et préoccupations par rapport à l'utilisation de l'eau de forage. Appelez au 081 890 63 94 pour participer.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Jean-Pierre Passois, bonjour.
Bonjour, cher Jeudi, bonjour à l'invité.
Vous êtes à Mykolaïv. Quelle est votre préoccupation par rapport à l'utilisation de l'eau de forage?
Okay, merci beaucoup pour cette thématique du jour. Vraiment, c'est très déplorable, cher Jeudi, pour ce qui concerne notre pays. 60 ans depuis l'indépendance, tous les règnes qui sont passés sans eau et l'électricité ne soient accessibles à tous et partout. Vraiment, ça, c'est déplorable depuis 60 ans. Jusqu'alors, notre pays est en train de subir des pénuries d'eau. Comment expliquer ce que je dis, un pays comme le nôtre qui est compté parmi le pays le plus riche au monde avec des potentialités en ressources hydrauliques, mais l'on constate qu'il y a toujours la pénurie en eau potable. Quand bien même on est convoité par d'autres États qui sont désertiques, cher Jeudi, vraiment, c'est déplorable. Comme ici, à Mykolaïv, je vous parle, c'est plus pur depuis que le barrage qui est à Mykolaïv, ici, le barrage de Mapolo, qui a été construit depuis le port des missionnaires, est abîmé. C'est ce barrage qui était capable de nourrir la cité de Mykolaïv en eau et en électricité. Vraiment, c'est abîmé. Tout ça, nous déplorons vraiment.
Et comment vous faites comment vous faites à Mykolaïv pour vous approvisionner en eau potable?
Je le dis, pour s'approvisionner en eau potable, c'est à Mykolaïv. On fait des kilomètres pour aller en brousse puiser l'eau des sources d'eau qui ne sont pas potables. C'est ça ce que nous faisons ici.
Bien, merci Jean-Pierre Passois. Daniel Ungembo, vous êtes à Kisangani. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Allô?
Allez-y rapidement, je vous ai déjà posé la question de savoir quelle est votre question par rapport au thème du jour.
Oui, ma question c'est en rapport avec
Bien, merci. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout de questions aujourd'hui. Professeur Asernzo, vous avez suivi le premier invité, le premier auditeur, Jean-Pierre Passois de Mykolaïv, qui déplore que beaucoup d'années après l'indépendance, l'accès à l'eau potable demeure toujours un problème. Par exemple, là-bas, il faut parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cette préoccupation-là? Professeur Asser?
Allô?
Allez-y, on vous écoute, professeur.
Oui, donc je disais que sa préoccupation est fondée dans la mesure où le législateur s'y est déjà pensé. Il parle depuis 60 jusqu'à ce jour, la pénurie d'eau est constatée en République démocratique du Congo. Ça, c'est vrai, c'est le constat qui a été fait. Mais jusque-là, les mécanismes justement de distribution d'eau étaient différents. Avant 2015, c'était le monopole de l'État qui devait distribuer de l'eau en ville et en dehors des villes en utilisant la structure de l'État uniquement. Mais depuis 2015, la loi est intervenue justement pour que les privés puissent intégrer les secteurs, pour que les privés soient capables eux aussi de distribuer de l'eau. Donc ceci montre que son souci a été pris en charge par les législateurs. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est l'opérationnalisation de cette intervention des particuliers dans la distribution d'eau. Et pour que cette participation soit effective, il y a des acteurs clés qui doivent travailler normalement. Et parmi ces acteurs clés, il y a au niveau des provinces, il y a la province, et puis il y a les ETD qui doivent travailler dans le sens de mettre en place les services publics de l'eau. Et c'est ce service public qui va travailler de façon à récolter toutes les données qui permettent de définir les besoins d'eau ici et là, et même de travailler pour mettre à disposition des opérateurs qui veulent investir dans le domaine de l'eau un certain nombre de données pour qu'ils interviennent correctement, ainsi de suite. Or, jusqu'ici, ce service de l'eau au niveau des provinces n'existe pas encore. Donc, moi, je pense que pour que sa préoccupation soit prise en charge, on doit travailler, regarder du côté d'abord des ETD, du côté des provinces, pour que ces acteurs s'approprient les compétences qui leur sont reconnues en matière de l'apport dans la distribution de l'eau potable.
Professeur Asser,
les particuliers aussi doivent s'impliquer. Donc on ne doit pas continuer à se plaindre, mais voir comment prendre des initiatives pour que justement on parvienne à distribuer effectivement de l'eau.
Bien. Oui, je vous écoute. D'accord. On va accueillir Gilbert Lokoua de Kinshasa et Franck César Mubenga de Kananga. Gilbert Lokoua, bonjour.
Oui, bonjour la radio Kabi. Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Gilbert?
Oui, j'aurais au moins deux questions à poser à l'invité, mais avant tout, je salue d'abord les sujets parce que ça tombe bien. Et je suis présentement sur la commune de Ngaba, et précisément au niveau des ronds-points Ngaba. Et je vous jure qu'ici, ça fait aujourd'hui au moins une année et demie, l'eau ne coule pas ici. Et de là, la population fait recours au système de forage, auquel ce système ne répond plus aux normes, ça ne répond plus aux normes sanitaires. Parce que lorsque vous constatez ces forages, je vous dirais que non, les forages ne répond plus aux normes sanitaires.
Pourquoi ça ne répond plus?
Oui, parce que d'abord, la manière dont on a conçu ces forages, et surtout l'utilisation de ces forages, ne répond plus. Parce que moi-même, je suis ici, je suis aujourd'hui au moins quelques semaines ici à Kinshasa, parce que je viens de Mbandaka. Chaque fois que je parte là-bas pour épouser de l'eau, vous vous rendez compte que non, vous êtes exposé, non seulement par coronavirus, parce qu'il y a l'environnement, plusieurs personnes ils se rendent compte, et plusieurs personnes vont là-bas pour épouser de l'eau. Donc, c'est déplorable.
Et pour puiser, il y a plusieurs personnes qui vont puiser là-bas, gratuitement, ou bien les gens payent
non,
pour avoir de l'eau?
Non, c'est 250 bidons, je vous jure, c'est 250 par bidon, c'est déplorable, parce que même la qualité de cette eau-là, c'est déplorable, vous voyez même la couleur de cette eau-là, et surtout, les goûts même, lorsque vous voulez même brosser les dents, lorsque vous voulez même prendre cette eau-là, vous vous rendez compte que non, l'eau a aussi une goût, l'eau
un goût pas intéressant.
Oui, l'eau vraiment, ce n'est pas une eau que la population peut consommer.
Mais Gilbert, il semble que lorsque vous vous lavez avec cette eau-là, ça élimine la mousse du savon automatiquement.
Non. Bon, lorsque vous utilisez cette eau-là pour se laver, donc vous rendez compte que non, l'eau a des colles, ça vous colle, donc ça fait fondre beaucoup. Donc, et c'est aussi une ce que je voulais aussi évoquer une sphère dans cette émission. Il y a un principe qui l'état de santé d'une population dépend aussi de l'état de l'eau que cette population utilise. Mais lorsque la population utilise une eau qui n'est pas potable, vous rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de maladies d'origine hydrique dans le niveau des communautés. C'est que nous déplorons la régie des eaux qui est là, ici à Kinshasa. La régie des eaux ne sort rien. Ouais, monsieur le journaliste, vous pouvez imaginer qu'au niveau de Kinshasa, là où je suis ici, la régie des eaux ne fait rien. Est-ce que combien de fois la régie des eaux fait donner l'eau à Mbandaka, là où je suis, ou à beaucoup de mon territoire natal? C'est pratiquement impossible. Donc, l'État congolais doit faire un effort de protéger la population. Vous luttez contre le coronavirus. Donc,
mais les gens ont des difficultés d'accès à l'eau potable. Merci Gilbert Lokoua. Oui, on a retenu votre préoccupation. Donc, dans la périphérie de Kinshasa, il y a beaucoup de forages. Les gens recourent à l'eau de forage, mais la qualité de cette eau pose problème. Franck César, vous êtes à Kananga. Bonjour, et quelle est votre question?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la DDP. Ma préoccupation est celle de la savoir. Parce que ici à Kananga, nous avons des mini-réseaux qui ont été construits récemment. Pour jusqu'alors, on ne voit absolument rien de l'évolution de ces taux-là. Mais la régie d'ozone ne s'occupe même pas, le gouvernement ne s'occupe pas. C'est pour cela qu'on demandait un peu que poser ces cas à la régie des eaux ainsi que le gouvernement qui pouvait s'engager de nous faire faciliter à retrouver un pays noir potable. Parce qu'ici, nous souffrons beaucoup. Il n'y a pas même de forage. Les gens vous prennent d'eau là, qui n'est même pas comparable à prendre. Donc, nous sommes là en train d'encaisser beaucoup de maladies. Puis, par des cas, nous avons les cas de l'ESC ici, de la fièvre typhoïde, qui surgit beaucoup sur la population. Donc, c'est-à-dire, c'est ça au moins le problème que nous voulons avoir. Si la population, le gouvernement et la régie de l'eau peuvent s'engager en même moment de pouvoir nous aider aussi à retrouver un peu tout. C'est mon commentaire que j'avais envoyé dans les sites.
Bien, merci. On va accueillir Kachai. Bonjour de Kanyuka.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Et bonjour à l'invité, monsieur le professeur.
On vous écoute, Kachai.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Vous suivez que tous les intervenants se plaignent. Il présente des plaintes que l'État ne sait pas lui-même répondre à ces exigences-là parce que la population est abandonnée. Nous, à Kanyuka, M. Jody, ce village-là est situé entre deux usines, usine de captage et usine de traitement d'eau de la régie des eaux. Mais à l'époque, nous avons été desservis en eau potable par la régie. Et par la suite, les robinets ont été fermés. D'une part, parce que les villageois ne voulaient pas payer les factures suite à la consommation de l'eau. Et d'autre part, il y avait un recouvrement forcé, même si vous êtes desservi en un jour, deux jours par mois, et on vient vous exiger les factures. La responsabilité est partagée. Maintenant, actuellement, M. Jody, nous avons un seul forage dans ce village, qui est au centre de santé de Kanyuka d'ailleurs, qui porte le même nom. Ce forage-là, construit sur financement d'un prêtre responsable d'une ONG, centre Injimuntu, formé, informé et instruit.
Un forage avec une pompe manuelle?
Avec une pompe manuelle, monsieur Jody. Avec une pompe manuelle. Et parfois, quand il n'y a pas de carburant, nous souffrons. C'est ça. Et tous les villages, d'ailleurs, ce ne sont pas tous les villages qui vont prendre un peu cette eau-là. Beaucoup se servent de l'eau de la source, l'eau de Kakajikakul. Mais quand vous allez à la source, il y a des gens aussi qui ont leur puits. Vous devez payer à la forêt avec ce puits-là. Il y a quelqu'un là qui vous dit, non, non, ça c'est mon puits. Vous devez payer. Donc c'est une souffrance qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que, d'ailleurs, l'eau du forage, quand vous goûtez, elle n'a pas un goût. Elle est scellée. Et ça donne de la nausée. Et vous risquez de vomir. Mais les gens sont dans l'union sacrée. Pour l'eau, l'État ne s'occupe pas. Mais pour d'autres choses, là, tout le monde est pressé. C'est ainsi que, par le canal de monsieur le professeur, parfois, nous luttons contre la COVID, mais nous n'avons pas de l'eau. Et aussi, nous faisons face à certaines maladies des mains sales parce qu'il n'y a pas l'eau pour se laver les mains. Vous voyez toutes les difficultés auxquelles nous faisons face. C'est à l'État maintenant, là. C'est plaidoyer là que les profs font. Ils peuvent le faire auprès de l'État. C'est vrai que la loi existe, mais nous ne sommes pas protégés. Nous nous débrouillons tous les jours ici. Nous vivons comme les animaux dans une forêt abandonnée.
Merci, Kachai. Merci, Kachai de Kanyuka, pour cette intervention. On va donner la parole à Mongo depuis Arou. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à notre invité.
Mongo, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'utilisation de l'eau de forage?
Merci, j'ai dit pour la parole. C'est presque le même problème que les amis évoquent. Ici, chez nous, nous avons aussi les problèmes d'eau. Ce qui pousse la grande partie de la population à se ruer sur les forages d'eau. Je dirais, pour ne pas exagérer, peut-être chez nous ici, sur chaque parcelle, il y a plus ou moins puits d'eau. Avec la construction de la cité, les problèmes d'eau se posent. C'est pour cela, vous verrez, il y a la majorité construit ces puits-là. pour les besoins personnels, mais comme tout le monde n'a pas, n'est-ce pas, la possibilité de se faire ces trous-là, il y a les voisins qui s'improvisent aussi pour puiser. C'est difficile de les refuser. Vous voyez, alors, on essaie de fixer prix à tête bas, là, pour que chacun ait, n'est-ce pas, de l'eau à boire chez lui, mais c'est une eau de quelle qualité?
Et là-bas, à Roux, lorsque vous allez puiser, vous payez combien? On vous fait payer combien
Nous payons plus ou moins, je dirais, c'est ça, c'est 4 francs. Mais c'est à monnaie ougandaise, ça peut être évalué à ça, c'est 4 francs par bidon. Et puis,
bidon de 5 litres.
Le service de l'hygiène n'est pas si jamais vérifié. C'est eau que les gens sont en train de vendre, c'est quelle qualité d'eau. Et puis, c'est comme ça que ça évolue les jours et les nuits, parce qu'on n'a pas d'eau. On est obligé de les faire comme cela.
Bien, merci Mogou depuis Yaro. Professeur Asser Nzovou, vous avez suivi toutes ces difficultés par rapport à la qualité de l'eau qui est puisée au niveau de ces forages. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs-là?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que les plaintes d'intervenants sont fondées d'abord du point de vue de la quantité, du point de vue de la couverture de l'eau potable, ça c'est un problème, c'est connu. On n'a pas accès à l'eau partout. Et là où on peut avoir accès à l'eau, mais la qualité ne suit pas. Justement, et comme la qualité ne suit pas, la population est exposée à des maladies. Voilà pourquoi il faut orienter la question vers les acteurs, le responsable. Parce que dans une société organisée, il y a répartition de compétences à tous les niveaux. Chacun doit poser des actes pour contribuer justement à ce que l'eau potable arrive à chaque ménage. S'agissant par exemple de cette question de potabilité, mais vous savez qu'il y a même un problème de normes de potabilité, dans la mesure où la loi prévoit qu'un arrêté du ministre ayant respectivement la santé publique et la définition de normes, la potabilité de l'eau. Et donc il y a un ministre chargé de la santé, un ministre chargé des questions de l'eau, qui doivent prendre un arrêté conjoint pour déterminer les normes de potabilité de l'eau, pour dire voilà, l'eau est potable. Mais à ma connaissance, cet arrêté n'existe pas encore. Déjà, il y a problème pour dire que cette eau est potable ou il n'est pas potable au regard du vide des versements juridiques. Mais on recourt, et ça c'est ce que j'ai trouvé à la régie des eaux, on retrouve aux normes de potabilité de l'OMS pour dire, voilà, cette eau est potable, ainsi de suite. Ben, ça, ce sont les normes de l'OMS. Mais la loi donne... Ouais,
alors, pour dire qu'une eau est potable, qu'est-ce qu'elle doit répondre à quels critères, professeur?
Mais justement, ce sont les critères qui doivent être définis par arrêté. Mais cet arrêté n'existe pas, vous voyez? Et là, ça pose problème. Pour dire que cette eau est potable ou il n'est pas potable, voyez-vous? Et on recourt, justement, je dis, à d'autres instruments, les instruments internationaux, mais qui ne sont pas tout à fait, à mon avis, adapté au problème, parce que la potabilité aussi est parfois relative, tient compte de tous les paramètres qu'il faut mesurer au regard d'un coin, au regard de personnes qui doivent en bénéficier, et ainsi de suite. Donc, face à cette norme qui n'existe pas, du moins du point de vue interne, il y a problème de définition de la potabilité. Voilà pourquoi l'autorité doit intervenir rapidement, définir la norme de potabilité. Ça, c'est une chose.
On nous dit souvent que l'eau doit être inodore, insipide, tout ça est incolore, professeur.
Ça, c'est ce que l'on dit, monsieur le journaliste. Mais dans une société organisée, les choses ne doivent pas se dire de manière hasardeuse. Je suis d'accord avec vous que c'est ça qu'on pense. Mais il faudrait qu'il y ait une norme qui puisse se définir pour qu'on se mette tous d'accord. Donc ça ne doit pas être des choses à spéculer, justement. C'est vrai que quand l'eau ne présente pas déjà les caractéristiques que vous venez d'énumérer, bon, tout de suite on pense que ce n'est pas l'eau de bonne qualité. Mais moi, face à ces vides, face à ces manquements de la norme, je suis en difficulté de dire que la potabilité c'est ceci ou c'est cela. S'agissant maintenant des acteurs qui doivent contrôler cette potabilité, lorsque vous allez dans la loi, il est prévu que la province et les ETD puissent définir des services qui doivent se charger de cette question-là. Mais ces services ne sont pas encore définis. Vous voyez, là également, on est en difficulté de contrôler
d'abord ceux qui exploitent les forages, comment les contrôler, quel est leur cahier de charges, sur base de quoi il faut les contrôler. Et donc nous devons tous orienter notre communication, notre sensibilisation vers la province.
Que et quel est, professeur, quel est le service, quel est le service qui devait faire le tour de ces forages pour vérifier la qualité de l'eau?
Oui, mais c'est, la loi prévoit qu'il faut la création d'un service public de la province. Donc il faut qu'on crée, c'est un service public à créer au stade actuel, parce que nous sommes en transition. Avant, c'était le monopole de l'État. Et maintenant que les particuliers interviennent, la loi a prévu qu'un service soit créé au niveau de la province. Et ensuite, après, en dehors de ce service de la province, mais il y a aussi au niveau national, l'autorité de régulation qui doit être créée. Et cette autorité a, parmi justement les attributions, notamment veiller à la qualité de l'eau potable au regard des charges au regard des conventions qui doivent être définies. Donc au stade actuel, les autorités qui doivent veiller, ou les services qui doivent veiller sur la qualité n'existent pas encore. D'où, justement, je salue votre initiative pour qu'on sensibilise les autorités provinciales afin qu'ils mettent sur pied ces structures qui sont capitales pour l'épanouissement ou la distribution de l'eau potable. Mais tant que ces structures n'existeront pas, on va bricoler, et dans les bricolages, rien ne marche.
Voilà, dans les bricolages, rien ne marche. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent faire, ceux qui ont des forages d'eau et dont la qualité d'eau pose problème? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'assurer que cette eau-là est potable? D'autant plus que le service dont vous faites allusion n'existe pas encore.
Oui, alors, les personnes qui ont la charge ou qui peuvent distribuer de l'eau jusque-là, ont l'obligation de veiller à la potabilité de cette eau. Mais pour qu'on veille, pour que la personne s'assure que cette eau est potable, assurez-vous que jusqu'ici, c'est au niveau de la régie des eaux qu'il y a des laboratoires pour vérifier la potabilité de l'eau. Moi-même, lorsque j'ai initié un forage, on a prélevé les échantillons, nous sommes allés à la régie des eaux pour vérifier la qualité de cette eau-là. Mais ça vous coûte énormément cher. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, la vérification de cette qualité. Et lorsqu'on sait que cette vérification doit être régulière, ce n'est pas que parce que vous avez vérifié aujourd'hui et que l'eau remplit certaines conditions, que demain, l'eau continuera à garder les mêmes conditions. Non. Donc, la vérification doit être régulière. Et au niveau de la régie des eaux, on vérifie. Mais il faudra que les privés aillent là-bas. Vous voyez les contraintes à quitter chez soi, prélever les échantillons, aller à la régie des eaux vérifier pour revenir. En ce moment-là, ça ne marche pas. Et les privés sont pratiquement découragés compte tenu du coût que cela représente. Mais si les services existaient, et donc les prélèvements se feraient par le service pour contre-vérifier ce que le particulier ou le distributeur de l'eau est en train de faire. Parce que quand on est distributeur, par exemple, on est en même temps juge et partie lorsqu'il faut vérifier la qualité de l'eau. À ce moment-là, la vérification n'est pas tout à fait fiable. Il faudrait que la vérification se fasse par un organe neutre. Mais je sais que dans certaines provinces, il y a, avec les interventions de certains organismes, les comités locaux de l'eau sont dotés de kits, qui leur permettent de vérifier, de passer, vérifier la qualité de l'eau dans des bornes et fontaines. Mais cette vérification a pour finalité de dresser un rapport qu'on adresse à l'autorité publique, par exemple à l'autorité de l'entité territoriale décentralisée comme la ville ou à l'autorité provinciale, pour sensibiliser justement cette autorité provinciale à se faire une idée sur la qualité de l'eau qui est distribuée et à prendre des mesures appropriées. Mais si l'autorité ne prend pas ces mesures, oui, en ce moment-là, on reste au coin et ça fait problème. C'est un travail pratiquement qui paraît comme inutile parce que ça n'aboutit pas à la prise des normes, ça n'aboutit pas à la mise en place des services qui doivent pérenniser ce travail-là.
Alors quels sont les dangers qui se présentent devant les utilisateurs de ces eaux de forage pas très bien entretenues?
Oui, mais les distributeurs ont des problèmes. Parce que vous distribuez de l'eau qui n'est pas potable et que cette eau crée des maladies, mais vous pouvez être poursuivi. Vous êtes responsable. Du point de vue de l'État, d'abord, parce que vous n'avez pas respecté les règles du jeu, vous pouvez être poursuivi. Mais les usagers, c'est-à-dire les bénéficiaires de cette eau polluée, ben, ils peuvent toujours revendiquer la réparation des dommages qu'ils subissent après avoir, comment dirais-je, consommé cette eau qui n'est pas de bonne qualité. Mais là aussi, on a des problèmes de preuves qu'il faut apporter pour dire, voilà, j'ai telle maladie à cause de cette eau-là que j'ai bu et tout ça, tout ça. C'est des choses, justement, qui doivent s'apprécier au niveau des juridictions si jamais il y a un groupe d'individus qui revendiquent d'avoir subi des dommages du fait de la qualité, de la mauvaise qualité de l'eau. Mais du côté de l'État surtout, il faudra justement que ces instruments existent, qui puissent mettre sur pied des amendes, qui peuvent être, comment dirais-je, perçues sur ces gens-là, et pour les dissuader à ne pas continuer à distribuer de l'eau potable, plutôt de l'eau polluée.
Bien, on va accueillir Platini Mbombo de Mbandaka. Bonjour.
Je vous dis bonjour, bonne année et merci pour l'invitation.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'utilisation de l'eau de fourrage?
Voilà, merci beaucoup Jody. Je voudrais quand même vous remercier pour la thématique du jour, c'est très important. Et Jody, souvent, ce que moi je peux quand même vous dire dans cette émission, ici, là où je suis dans la ville de Mbandaka, souvent on voit qu'il y a beaucoup de fourrage sur le terrain, dans nos différents quartiers. Mais il y a un problème qui se passe aujourd'hui, vous allez constater que l'eau qui sort n'est pas vraiment un eau, on peut dire l'eau pure propre. Souvent, quand on voit aussi les services de l'État, comme l'hygiène de la ville de Mbandaka aussi, même les services de contrôle, comme ça on appelle aussi cela, ne s'occupent même pas de ça. Et aussi, il y a d'autres organismes qui est ici, qui a fait au moins 5 à 6 forages ici dans la ville de Mbandaka. Mais vous allez constater qu'au début, ça a été un peu dans les bons. Mais maintenant là, je vous rassure que ça évolue pas dans les bons. Alors c'est que moi je peux dire que tout ça, ça nous amène aussi, il y a beaucoup de maladies, même aussi les microbes, on peut dire, même là, qui sort là-bas. Donc ça, nous, je dois quand même exhorter, surtout le gouvernement, donc l'État congolais, de veiller un peu à ce que le service qui est censé à contrôler ces forages-là doit un peu faire très bien le travail. Voilà un peu joli. C'est que je pourrais quand même ajouter dans cette émission d'aujourd'hui.
Bien, merci. Olivier Yanda, vous êtes à Kalemie. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour monsieur les journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi et bonjour monsieur l'invité.
Veuillez vous éloigner de votre poste récepteur parce que là, on est en train de, nous avons un retour à l'antenne ou bien vous pouvez diminuer carrément le volume. Alors, quelle est votre question? Vous êtes économiste en développement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'utilisation de l'eau de forage?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On sait très bien que l'eau est essentielle à la vie de l'humanité. Nous remarquons dans la plupart des pays sous-développés, la pénurie d'eau reste un défi majeur à relever, où la majorité des personnes vivantes dans plusieurs villes et milieux ruraux n'ont pas accès à l'eau potable. Et comme conséquence, nous assistons à beaucoup de morts chaque année suite à une maladie due à l'eau salée. Selon mes analyses, en tant qu'un économiste en développement, ce problème de la pénurie d'eau est dû à une mauvaise accumulation des ressources au sein de la régie des eaux. Donc, il n'y a pas d'épargne pour financer les stocks capital déjà endommagés afin d'améliorer sa performance. Et nous sommes en train de déplorer beaucoup plus bon nombre de chefs d'entreprise en République démocratique du Congo se basent uniquement à la rémunération d'un seul facteur de production.
Alors, quelle est votre question? Rapidement, la question.
Donc, à mon humble avis, je voulais juste suggérer au gouvernement qui sera mis en place pour le moment de disponibiliser des moyens nécessaires financiers à cette régie financière, afin d'améliorer sa performance pour permettre à une majorité de personnes d'avoir accès à l'eau potable.
Merci.
Merci
Yanda Olivier. Si aujourd'hui les gens recourent à l'eau de forage, c'est parce que il y a beaucoup de pénuries, beaucoup de difficultés d'accès à l'eau de la régie des eaux. C'est ce qui fait même qu'à Kinshasa, dans la périphérie, beaucoup de gens ont aujourd'hui aménagé des forages. Gabriel Kombe, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Jody. C'est Gabriel Kombe depuis Kinshasa.
Je viens de les dire tout de suite, Gabriel. Vous n'avez pas à les répéter. Quelle est votre question?
Je n'ai pas une question, mais j'ai plutôt une préoccupation.
Laquelle?
C'est compréhensible que ceux qui boivent de l'eau augmente de caniveaux ont du mal à se nourrir, à se baigner, vivre dans les noirs par manque d'électricité, etc. Sont les mêmes personnes qui applaudissent les politiciens. Et que dire ceux qui sont à l'extérieur, pour ces gens-là qui applaudissent les politiciens, qui font absolument rien, nous manquons de l'eau, et ils disent, moi je veux savoir que pensent, que disent les gens qui sont à l'extérieur par rapport à la condition des coronavirus qui vivent à Kinshasa. Merci.
Bien, merci. Nous allons suivre tout à l'heure M. François Kalwelevula. Il est promoteur du Centre de recherche, d'études et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. Il s'est entretenu avec Tati Mapoukou et il a donné quelques solutions par rapport à la pénurie de l'eau potable dans les zones urbaines et rurales de la République démocratique du Congo. Nous allons suivre un extrait tout à l'heure de Monsieur François Kalwelevula par rapport à cette question. Écoutez.
Aujourd'hui, avec les changements climatiques, il y a très peu d'eau et il y a des crépines qui n'arrivent plus à capter l'eau au niveau de la berge. Il faut aller un peu plus loin dans le lit de la rivière. Et quand la crépine a déjà tiré de saleté, c'est question de savoir comment gérer ça pour qu'on ne reçoive que de l'eau dans des réservoirs de traitement. Et malheureusement, toutes ces canalisations, quand on parle même d'Engaliema, ont été déjà spoliés parce qu'il y a des gens qui viennent construire dans des zones de captage des eaux. Et aujourd'hui où nous parlons, quand la quantité des eaux de façon naturelle avec les changements climatiques baisse, il y a aussi le problème des traitements de ces eaux. L'eau doit être traitée. Ce sont des produits chimiques qui doivent venir, mais nous n'en produisons pas à part la chaux que nous avons au niveau du Congo central ici pour neutraliser le pH. Tous les autres produits sont importés. Or, nous avons des chimistes dans notre pays. C'est là que je suis en train d'étayer ce que j'étais en train de dire, que les eaux, les colons nous a laissé. Nous devons nous prendre en charge. Comment produire des produits chez nous pour permettre à ce que nous ayons cette indépendance? Malheureusement, il n'y a pas d'initiative. Et encore pire, il n'y a pas d'accompagnement. Prenons une proposition qui est très simple. Ce n'est pas obligé que nous puissions travailler seulement avec de l'eau de ruissellement, de l'eau de rivière, parce que ça demande beaucoup de frais de traitement. Nous pouvons faire comme ce qui est fait au niveau des déserts. Là, ils n'ont pas de pluie, ils n'ont pas de rivière comme chez nous. Ils travaillent avec la nappe phréatique. La nappe phréatique se renouvelle dès lors que nous avons des précipitations. Précipitation, ça veut dire la forêt. C'est question de voir comment organiser la symbiose entre la forêt et le besoin à nous. Ça veut dire qu'il faut savoir arroser. Quand on n'arrose pas, on attend que la pluie tombe, l'eau ne va pas se reconstituer pour reconstruire nos cours d'eau et rivières. Ça, c'est autre chose. On pourra avoir une émission élaborée pour pouvoir parler de ça. Mais au moins, faire comme ce que Malcolm X a dit. Quand on n'a pas la capacité d'être savant, il faut être à même de pouvoir bien copier. Et pour terminer, l'eau a un moteur qui le déplace. Sans électricité, on ne peut pas avoir de l'eau. Étant donné que la régie des eaux est dépendante de la SNEL, au cas où la SNEL est grippée, la régie des eaux tous. Vous voyez, or, la régie des eaux, comme ça que je viens de dire, pouvait aussi aller dans le sens de ce qui se fait aussi dans des pays où il n'y a pas d'eau pour avoir l'électricité que nous avons l'avantage ici, que je glorifie le bon Dieu au passage. Pour ça, travailler avec les systèmes de panneaux solaires. Il y a des capacités considérables pour faire tourner des grandes usines avec des panneaux solaires pour lui permettre d'avoir aussi l'indépendance quand la SNEL a des difficultés et la régie des eaux ne reste pas seulement pour se plaindre. Nous parlons ici en termes d'agrégats, donc de grandes structures en fait. Hein. La régie des eaux est là, les autres sont en train de s'organiser pour satisfaire aux besoins de la famille et à la rigueur de l'avenue. Mais on peut maintenant extrapoler pour qu'une grande structure mette les moyens pour la distribution de ces eaux-là. Vous comprenez, pour amener ça un peu plus loin par rapport à la zone desservie par ce forage. Or, ça peut être fait par la régie des eaux. Il n'y aura pas besoin de 150 000 mois pour que cela soit réalisé. Primo, c'est question d'apporter un financement pour que la régie des eaux, parce que nous parlons en termes de la régie des eaux qui a la dimension et l'expertise de pouvoir distribuer les eaux par des moyens mécaniques aujourd'hui. Donc, disponibiliser les véhicules pour le forage. Parce que le forage que nous sollicitons auprès des particuliers, ça coûte excessivement cher. Et l'eau en question est vendue beaucoup plus cher que ce que la régie des eaux met à la disposition de la population.
Et peut-être c'est la qualité aussi de cette eau-là aussi, ça on ne sait pas aussi.
Pose problème, effectivement. Parce que ce n'est pas seulement l'eau, parce qu'on voit que l'eau est claire, que l'eau est bonne et potable. Donc c'est question que ça passe au niveau des laboratoires pour dire qu'effectivement l'eau en question est potable. Il y a aussi le problème de pH que je disais tout à l'heure. Ça peut être clair, mais quand le pH est au-dessus, donc c'est un peu trop salé, c'est ce qui amène le goitre, vous comprenez. Et quand on ne purifie pas ça, ça pose problème à la consommation.
Retrouvez votre journal de l'économie à partir de ce mercredi 17 février sur Radio Okapi. Les paniers de la ménagère, les marchés financiers et d'échange, l'entrepreneuriat, l'agriculture, etc. Écho d'économie pour mieux comprendre l'actualité économique de la RDC et du monde. Écho d'économie, c'est de lundi au vendredi à 19h02 et la rediffusion le matin à 7h30.
Utilisation de l'eau de forage, avantages et dangers. Professeur Asser Nzovu, vous êtes expert en droit de l'eau. Vous avez certainement suivi tout ce qui a été dit. Les gens font recours à l'eau de forage, mais cette eau n'est pas toujours potable. Certains disent qu'on retrouve même des vers à l'intérieur. L'intervenant de tout à l'heure a parlé même de goitre. Si cette eau est salée, en la prenant régulièrement, il y a des maladies d'origine hydrique. Il y a également le goitre qui peut s'en suivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela, professeur Asser?
Oui, justement, mais merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les intervenants ont raison dans ce qu'ils pensent par rapport à la problématique de la qualité de l'eau. Je salue l'intervention et les suggestions de ceux qui y ont participé. Mais la question, parce que lorsque l'on doit avancer sur cette question, la question doit être centrée sur les responsables. Tant qu'on ne cible pas les responsables et qu'on les met devant ces responsabilités, on peut avancer autant de théories, les choses ne marcheront pas. C'est comme ça que lorsqu'on revient à la loi actuelle, je prends par exemple l'article 78, où on a déterminé les maîtres d'ouvrage en ce qui concerne les installations d'eau. Il y a la province et l'entité territoriale décentralisée qui doivent être des maîtres d'ouvrage. Et lorsqu'on est maître d'ouvrage, on doit assurer non seulement la fourniture des services, mais aussi la gestion et la maintenance de ces installations-là pour que finalement l'eau qui va être distribuée à travers ces installations soit l'eau de qualité. Lorsqu'il s'agit justement des ouvrages qui sont créés par l'État. Mais lorsque ce sont les privés, évidemment, les entités ont l'obligation de contrôle. Mais maintenant, lorsque ces autorités qui sont censées veiller, qui sont censées mettre sur pied le service, ne les font pas, donc c'est là le problème. Moi, je pense plutôt que la communauté devra se mobiliser pour mettre les acteurs devant leurs responsabilités. L'approche de la mise de responsabilité ou l'interpellation des acteurs pour qu'ils endossent les responsabilités, qu'ils s'approprient les attributions qui leur sont données en matière d'eau. Je pense que c'est l'approche qui pourra faire en sorte que, même lorsqu'on choisit, parce que j'ai vu, il y a un candidat qui a dit que ce sont les mêmes politiciens qui viennent pour demander notre électorat, on les choisit, mais finalement ils ne font rien. Mais le problème, justement, on les choisit sur base de quoi? Est-ce qu'on a déjà posé la question à des gens qui viennent solliciter l'électorat sur leur politique sur la distribution de l'eau potable?
Professeur, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces privés-là qui ont des forages, chez eux à la maison? Comment est-ce qu'ils peuvent bien les entretenir? Certains disent qu'il faut de temps en temps jeter du sel pour purifier l'eau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour entretenir ces forages et afin que l'eau soit de bonne qualité?
Oui, la première des choses qu'il faudra leur conseiller, c'est d'entrer en contact avec le service approprié qui devra veiller sur la qualité, qui devra leur donner les normes de qualité. Parce qu'il ne faut pas que la qualité soit bricolée en mettant du sel et tout ça, ainsi de suite. Mais vous mettez quelle dose, sur quelle quantité d'eau, ainsi de suite. Là, c'est des problèmes. Donc, il ne faudra pas qu'on s'improvise, qu'ils entrent en contact avec des services appropriés de l'État pour que ce service leur donne le règle de jeu, ce qu'il faut faire pour que leur eau puisse être entretenue de bonne manière. Voilà le conseil que je peux donner. Je ne voudrais pas conseiller aux gens de bricoler en leur manière. Mais pour ceux qui ont suffisamment un peu de moyens, ils peuvent toujours se référer à un laboratoire qui vérifie régulièrement la qualité de l'eau, ou se référer, par exemple, comme dans certaines provinces où il y a déjà des kits de vérification de la qualité de l'eau qui sont distribués, entrer en contact avec ce service pour que régulièrement qu'ils puissent vérifier la qualité de l'air eau et s'entourer des méthodes ou des techniques de filtration qui puissent permettre à ce que l'eau soit maintenue en bonne qualité.
Professeur Asser Nzovu, expert en droit de l'eau, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation dans Capi Service. Excellente journée et bon début de semaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Et merci aux auditeurs.